Les grandes espérances, deuxième partie, chapitre 25. C'était un de ces jours de mars où le soleil brille chaud et où le vent souffle froid, où l'on trouve l'été sous le soleil et l'hiver à l'ombre. Nous avions nos paletots avec nous et je pris un sac de voyage. De tout ce que je possédais sur terre, je ne pris que les quelques objets de première nécessité qui remplissaient le sac. Où allais-je? Qu'allais-je faire? Et quand reviendrai-je? Étaient autant de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Je n'en troublais pas mon esprit, car tout cela reposait sur la sûreté de Provis. Je me demandais seulement, au moment où je m'arrêtais à la porte pour jeter un dernier regard dans l'appartement, dans quelles circonstances différentes je devais revoir ces chambres, si jamais je les revoyais. Nous descendîmes, sans nous presser, l'escalier du temple, et nous y restâmes pendant quelque temps, comme si nous n'étions pas encore tout à fait décidés à tenter l'aventure. J'avais, bien entendu, veillé à ce que le bateau se trouvât prêt et tout en ordre. Après avoir montré un peu d'indécision, dont personne ne fut témoin, que les deux ou trois créatures amphibies appartenant à notre escalier du temple, nous nous embarquâmes et prîmes le large, Herbert à l'avant, moi au gouvernail. La marée était haute, car alors il était 8h30. Voici quel était notre plan. La marée commençant à baisser à 9h et nous emmenant jusqu'à 3h, notre intention était de continuer quand elle remonterait et de ramer contre elle jusqu'à la nuit. Nous serions bien alors arrivés dans ces grandes largeurs au-delà de Gravesend, entre Kent et Essex, où la rivière est large et solitaire, où les habitants riverains sont peu nombreux, et où il y a des auberges éparses, çà et là, parmi lesquelles nous pourrions facilement en choisir une pour nous reposer. Nous avions l'intention d'y rester toute la nuit. Le paquebot pour Hambourg et celui pour Rotterdam devaient quitter Londres vers 9h, le jeudi matin. Nous savions à quelle heure l'attendre, selon l'endroit où nous serions, et nous hélerions d'abord le premier, de sorte que, si, par hasard, on ne pouvait nous prendre à bord, nous aurions une seconde chance. Nous connaissions les marques distinctives de chaque vaisseau. Le soulagement que j'éprouvais, en commençant enfin l'exécution de notre entreprise, était si grand qu'il m'était difficile de croire à l'état dans lequel je m'étais trouvé quelques heures auparavant. L'air vif, le soleil, le mouvement sur la rivière et le mouvement dans la rivière elle-même, l'eau qui courait avec nous, paraissant sympathiser avec nous, nous animer, nous encourager, me rafraîchissait d'un nouvel espoir. Je me sentais intérieurement humilié d'être si peu utile dans le bateau, mais il y avait peu de meilleurs rameurs que mes deux amis, et ils ramaient avec une régularité qui devait durer tout le jour. À cette époque, la navigation à vapeur sur la Tamise était bien loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, et les bateaux à rames étaient bien plus nombreux. Il y avait peut-être autant de barques houillères à voile et de bateaux côtiers qu'à présent, mais les vaisseaux à voile, grands et petits, n'étaient pas la dixième ou la vingtième partie aussi nombreux. De bonne heure comme il était, il y avait déjà beaucoup de bateaux à rames allant et venant, beaucoup de barques descendant avec la marée. La navigation sur la rivière, entre les ponts, en bateaux découverts, était chose plus commode et plus commune dans ce temps-là qu'aujourd'hui, et nous avancions lentement, au milieu d'un grand nombre d'esquifs et de péniches. Nous eûmes bientôt franchi le vieux pont de Londres, et le vieux marché de Billingsgate, et la tour blanche, et la porte des traîtres, et nous passâmes entre les rangées de vaisseaux. Voici les bateaux à vapeur de Leith, d'Aberdeen et de Glasgow, chargeant et déchargeant des marchandises. Ils paraissent énormément élevés au-dessus de l'eau quand nous passons le long de leurs flancs. Voici les houillers, par vingtaines et vingtaines, et les déchargeurs de charbon qui épongent les planches des ponts des navires, en compensation des mesures de charbon qu'ils enlèvent et qu'ils versent ensuite dans les barques. Ici est amarré le steamer qui part demain pour Rotterdam. Nous en prenons bonne note. Et là, le steamer qui part demain pour Hambourg, sur le beau pré duquel nous passons. Et maintenant, assis à l'arrière, je peux voir, et mon cœur en bat plus vite, le moulin et les escaliers du moulin. « Est-il là ?» dit Herbert. « Pas encore. C'est juste. Il ne devait pas descendre avant de nous voir. Pouvez-vous voir le signal ?»« Pas bien d'ici, mais je crois le voir, lui. Ah, maintenant je le vois. Ensemble, doucement, Herbert, rentrez vos rames. » Pendant une seule minute, nous touchons légèrement l'escalier. Provis saute à bord et nous reprenons le large. Il avait un manteau de matelot avec lui, une malle en toile noire, et il ressemblait autant à un pilote de rivière que mon cœur pouvait le désirer. « Mon cher ami, dit-il en mettant son bras sur mon épaule pendant qu'il prenait sa place, « cher et fidèle enfant, c'est bien. Merci, merci. » Nous traversons encore une rangée de vaisseaux, nous en sortons, nous évitons les chaînes rouillées, les câbles de chanvre, les grelins et les bouées. Nous dispersons les copeaux et les éclats de bois flottants, nous fendons les amas de scories de charbon flottantes. Nous passons sous la figure de la proue du John de Sunderland, adressant un discours au vent, comme font bien des Johns, et sous la Betsy de Yarmouth, avec sa gorge ferme et ses yeux protubérants sortant de 2 pouces hors de sa tête. Nous passons devant des marteaux qui fonctionnent dans les chantiers de construction, devant des scies qui pénètrent dans le bois, devant des machines qui frappent à grand bruit sur des choses inconnues. Des pompes jouent dans les vaisseaux qui prennent eau. Les cabestans tournent, les vaisseaux gagnent la mer, et des créatures marines échangent des jurons impossibles par-dessus les bords, avec des débardeurs qui leur répondent. Nous passons enfin sur une eau plus claire dans laquelle les mousses pourraient prendre leurs ébats, s'empêcher plus longtemps dans les eaux troubles qui sont de l'autre côté et où les voiles festonnées peuvent se gonfler au vent. À l'escalier où nous avions pris Provis à bord, et toujours depuis, j'avais cherché vainement une preuve que nous étions soupçonnés, je n'en avais pas vu. Certainement, nous ne l'avions pas été à ce moment-là, et certainement, nous n'étions ni précédés ni suivis d'aucun bateau. Si nous avions été surveillés par quelque bateau, j'aurais nagé vers lui et je l'aurais obligé à continuer ou à déclarer son projet. Mais nous continuâmes notre route sans la moindre apparence d'être molestés. Provis avait mis son manteau de matelot et semblait, comme je l'ai dit, un personnage approprié au milieu dans lequel nous nous trouvions. Il était remarquable, mais peut-être la vie misérable qu'il avait menée pouvait l'expliquer, qu'il n'était pas le moins du monde inquiet pour aucun de nous. Il n'était pas indifférent, car il me disait qu'il espérait vivre pour voir son gentleman devenir un des gentlemen les plus parfaits en pays étranger. Il n'était pas disposé à être passif ou résigné, ainsi que je le compris, mais il ne se doutait aucunement qu'on pût rencontrer le danger à moitié route. Quand le danger fondait sur lui, il lui tenait tête, mais il fallait qu'il vînt avant qu'il s'en occupât. « Si vous saviez, mon cher ami, me dit-il, ce que c'est que d'être ici, à côté de mon cher enfant, et de fumer ma pipe, après avoir passé des jours entre 4 murailles, vous m'envieriez. Mais vous ne savez pas ce que c'est. « Je crois connaître les délices de la liberté, » répondis-je. « Ah » dit-il en secouant gravement la tête. « Il faut avoir été sous clé et verrou, mon cher enfant, pour le savoir comme moi. Mais je ne vais pas montrer de petitesse. » Je ne pouvais concevoir comment, pour une idée fixe comme celle de me voir gentleman, il avait pu risquer sa liberté et même sa vie. Mais je réfléchis que peut-être la liberté sans danger était trop en dehors de toutes les habitudes de sa vie pour être pour lui ce qu'elle serait pour un autre homme. Je n'étais pas trop loin du vrai, car il dit, après avoir fumé un peu, « Écoutez-moi, cher ami, quand j'étais là-bas, de l'autre côté du monde, je regardais toujours de ce côté, et il me devint insipide d'y rester, car je devenais riche. Tout le monde connaissait Magwitch, et Magwitch pouvait aller, et Magwitch pouvait venir. » Et personne ne s'occupait de lui. Ils ne sont pas aussi coulants avec moi ici, mon cher enfant, ou du moins ils ne le seraient pas s'il savait où je suis. « Si tout va bien, dis-je, vous serez dans quelques heures tout à fait libre et en sûreté. »« Eh bien, reprit-il en poussant un long soupir, je l'espère. » « Et le croyez-vous ? » Il trempa sa main dans l'eau par-dessus le plat-bord du bateau et dit en souriant de cet air doux qui n'était pas nouveau pour moi. « Oui, je suppose que je le crois, cher enfant. Il serait difficile d'être plus tranquille et plus à notre aise que nous ne le sommes maintenant. Mais c'est peut-être cette brise si douce et si agréable sur l'eau qui me le fait croire. Je songeais tout à l'heure, en regardant la fumée de ma pipe, que nous ne pouvons pas plus voir au-delà de ces quelques heures que nous ne pouvons voir au fond de cette rivière dont j'essaie de saisir l'eau. Et nous ne pouvons pas retenir davantage le cours du temps que je ne puis retenir cette eau. Et voyez, elle a passé à travers mes doigts et est partie, dit-il en levant sa main mouillée. Mais à votre visage, j'aurais pensé que vous étiez un peu abattu, dis-je. Pas le moins du monde, mon cher enfant. Cela vient des flots qui sont si calmes et qui murmurent si doucement à l'avant du bateau une espèce de psalmodie du dimanche, sans compter que peut-être je deviens un peu vieux. Il remit sa pipe dans sa bouche avec une expression impassible et se tint calme et content, comme si nous eussions été hors d'Angleterre. Cependant, il se soumettait aussi facilement au moindre mot d'avis que s'il eût été dans une constante terreur. Lorsque nous abordâmes pour nous procurer quelques bouteilles de bière, il allait sauter à terre quand je lui fis comprendre que je croyais qu'il serait plus en sûreté où il était. Et il dit « Vous croyez, mon cher enfant ?» Et il se rassit tranquillement. L'air était froid sur la rivière, mais c'était une belle journée, et le soleil nous envoyait des rayons joyeux. La marée descendait vite. Je prenais soin d'en profiter, et nos rames nous menaient bon train. Imperceptiblement, avec la marée qui se retirait, nous nous éloignâmes de plus en plus des bois et des coteaux, et nous nous approchâmes des bancs de vase. Mais la marée ne nous avait pas encore quittés quand nous eûmes passé Gravesend. Comme l'objet de nos soins était enveloppé dans son manteau, je passais avec intention à une ou deux longueurs de bateau de la douane flottante et un peu plus loin, pour reprendre le courant, le long de deux vaisseaux des migrants et sous l'avant d'un gros navire de transport sur le gaillard d'avant duquel il y avait des troupes qui nous regardaient passer. Bientôt, le courant se mit à faiblir et les radeaux à l'ancre à balancer et bientôt, tout balança alentour. Et les vaisseaux, qui voulaient profiter de la nouvelle marée pour remonter le fleuve, commencèrent à passer en flotte autour de nous, qui nous tenions autant que possible près du rivage, hors du courant, évitant avec soin les bas-fonds et les bancs de vase. Nos rameurs s'étaient si bien reposés, en laissant de temps à autre le bateau suivre le courant, pendant une minute ou deux, qu'un quart d'heure de halte leur suffit grandement. Nous nous abritâmes au milieu de pierres limoneuses pour manger et boire ce que nous avions avec nous tout en veillant avec attention. Cet endroit me rappelait mon pays de marais, plat et monotone, avec son horizon triste et morne. La rivière, en serpentant, tournait et tournait, et les grandes bouées flottantes tournaient et tournaient, et tout le reste semblait calme et arrêté. Le dernier essaim de vaisseau avait doublé la dernière basse pointe que nous avions franchie. La dernière barque verte, chargée de paille, avec une voile brune, l'avait suivie. Quelques bateaux de ballast, construits comme la première imitation grossière d'un bateau, faite par un enfant, étaient enfoncés profondément dans la vase. Le petit phare trapu construit sur pilotis se montrait désemparé sur ses échasses et ses supports. Les pieux gluants sortaient de la vase, les bornes rouges sortaient de la vase, les signaux de marée sortaient de la vase, et une vieille plateforme et une vieille construction sans toit reposaient sur la vase. Enfin, tout autour de nous n'était que vase et stagnation. Nous reprîmes le large et fîmes le plus de chemin qu'il nous fut possible. C'était bien plus dur à manœuvrer maintenant. Mais Herbert et Startup furent persévérants et ils ramèrent jusqu'au coucher du soleil. À ce moment, la rivière nous soulevait un peu, de sorte que nous pouvions planer au-delà des rives. Nous voyions le soleil rouge au fond de l'horizon, colorant la terre d'un bleu empourpré qui noircissait à vue d'œil, et les marais solitaires et plats, et au loin les montagnes entre lesquelles et nous, il ne semblait y avoir rien de vivant, si ce n'est, çà et là, sur le premier plan, une mouette mélancolique. Comme la nuit tombait vite, et que la pleine lune étant passée, la lune ne devait pas se lever de bonne heure, nous tîmes un petit conseil. Il fut de courte durée, car il était clair que ce que nous avions à faire, c'était de nous arrêter à la première taverne isolée que nous pourrions trouver. On mit de nouveau les rames en mouvement, et je cherchais au loin quelque chose comme une maison. Nous continuâmes ainsi, parlant peu, pendant 4 ou 5 longs milles. Il faisait très froid, et un bateau de charbon, venant sur nous avec son feu brillant et fumant, nous parut un intérieur confortable. La nuit était aussi sombre à ce moment qu'elle devait le rester jusqu'au jour, et le peu de lumière que nous avions semblait venir plutôt de la rivière que du ciel, quand les rames, en plongeant, reflétaient quelques étoiles. À ce moment lugubre, nous nous sentions tous obsédés de l'idée qu'on nous suivait. La marée, en montant, battait lourdement et à des intervalles irréguliers contre le rivage, et toutes les fois que ce bruit nous arrivait, l'un ou l'autre d'entre nous ne manquait jamais de faire un mouvement et de regarder dans cette direction. Çà et là, le courant avait creusé dans la rive une petite crique. Nous redoutions ces sortes d'endroits et nous les observions avec anxiété. Quelquefois, l'un de nous s'écriait à voix basse « Qu'est-ce que ce bruit ? Est-ce un bateau que l'on voit là-bas ? » demandait l'autre. Puis nous retombions dans un silence de mort et je ne cessais de penser avec impatience au bruit inaccoutumé que les rames faisaient dans les anneaux où elles étaient retenues. À la fin, nous découvrîmes une lumière et un toit. Bientôt après, nous glissions le long d'une petite digue faite avec des pierres qui avaient été ramassées tout près de là. Laissant les autres dans le bateau, je sautai à terre et je trouvai que la lumière se voyait à travers la fenêtre d'une taverne. C'était un endroit assez sale et, j'ose le dire, très connu des contrebandiers. Mais il y avait un bon feu dans la cuisine, des œufs et du jambon à manger et diverses liqueurs à boire. Il y avait aussi 2 chambres à 2 lits, telles quelles, comme le dit le maître de l'établissement. Il n'y avait personne dans la maison que le propriétaire, sa femme et un individu mâle, grisonnant, le garde-pavillon du petit port, qui était aussi gluant, aussi limoneux que s'il avait été enfoncé dans l'eau pour en marquer la hauteur. Avec cette aide, je revins au bateau et nous retournâmes tous à terre emportant les rames, le gouvernail, la gaffe et tout ce qu'il contenait. Nous le tirâmes de l'eau pour la nuit. Nous fîmes un très bon repas auprès du feu de la cuisine et nous gagnâmes les chambres à coucher. Herbert et Startup devaient en occuper une, moi et l'objet de nos soins, l'autre. Nous trouvâmes l'air aussi soigneusement exclu de l'une que de l'autre, comme si l'air était fatal à la vie, et il y avait plus de linge sale et de carton sous les lits que je n'aurais cru la famille capable d'en posséder. Mais nous nous considérâmes cependant comme bien partagés, car il nous eût été impossible de trouver un lieu plus solitaire. Tandis que nous nous réconfortions près du feu, après notre repas, le garde, qui se tenait blotti dans un coin et qui avait une énorme paire de souliers qu'il avait exhibée pendant que nous mangions notre omelette au lard, relique intéressant qu'il avait prise il y a quelques jours au pied d'un matelot noyé, me demanda si j'avais vu une galiote de douanier à 4 rames remonter avec la marée. Quand je lui eus répondu que non, il me dit « Ils doivent alors être descendus, et pourtant ils ont pris part en haut en quittant d'ici. Mais ils auront réfléchi que cela valait mieux, pour une raison ou pour une autre, et ils seront descendus. » « Une galiote à 4 rames, avez-vous dit ? » demandai-je. « Oui, monsieur. Et il y avait dedans 2 hommes assis qui ne ramaient pas. » « Sont-ils descendus à terre ? » Et sont-ils venus ici ?
Et ils sont venus ici avec une cruche engrais de 2 gallons pour chercher de la bière.
J'aurais bien voulu empoisonner la bière, dit le garde,
ou y mettre quelques drogues.
Pourquoi ?
Je sais bien pourquoi, dit le garde. Il y en avait un qui parlait d'une voix sourde comme s'il avait de la vase dans le gosier.
Il croit, dit l'hôtelier, homme peu méditatif, à l'œil pâle et qui semblait compter sur son garde.
Il pense qu'ils étaient ce qu'ils n'étaient pas.
Je sais ce que je pense, observa le garde.
Vous pensez que ce sont les douaniers, Jack, dit l'aubergiste.
Oui, dit le garde.
Eh bien, vous vous trompez.
Vraiment ?
Dans la signification infinie de sa réplique et sa confiance sans borne dans sa perspicacité, le garde ôta un de ses énormes souliers, regarda dedans, fit tomber quelques cailloux qui s'y trouvaient sur le pavé de la cuisine et le remit. Il fit ceci de l'air d'un homme qui voit si juste qu'il peut tout se permettre.
« Que croyez-vous donc qu'ils fassent de leurs boutons ? » demanda le maître de la maison en hésitant un peu.
« Avec leurs boutons, » répondit le garde.
« Les semer par-dessus bord, les avaler, les semer pour récolter de petites salades. »
« Ce qu'ils font de leurs boutons !»«
Ne vous emportez pas, » dit le propriétaire d'un ton mélancolique et pathétique à la fois.
« Un officier de la douane sait ce qu'il doit faire de ses boutons, » dit le garde, en répétant le mot qui l'offusquait avec le plus grand mépris, « quand on passe entre lui et sa lumière.
4 rameurs et 2 hommes assis ne montent pas avec une marée pour descendre avec une autre, avec ou contre le courant, sans qu'il y ait de la douane au fond de tout cela. »
Là-dessus, il sortit avec un geste de dédain, et l'aubergiste, n'ayant plus personne pour la soutenir, trouva impossible de poursuivre cette conversation. Ce dialogue nous donna à tous de l'inquiétude. À moi surtout. Il m'en donna beaucoup. Un vent lugubre sifflait autour de la maison, la marée battait la berge, et j'avais le pressentiment que nous étions épiés et menacés. Une galiote à 4 rames, allant et venant d'une manière assez inusitée pour attirer l'attention, était une détestable circonstance, et je ne pouvais me débarrasser de l'appréhension qu'elle me causait. Quand j'eus amené Provis à se coucher, je sortis avec mes 2 compagnons. Startop, à ce moment, connaissait l'état des choses, et nous tîmes de nouveaux conseils. Resterions-nous dans la maison jusqu'à l'approche du steamer, qui devait passer vers 1 heure de l'après-midi environ, ou bien partirions-nous de grand matin ? Telles étaient les questions que nous discutâmes. Nous terminâmes en décidant qu'il valait mieux rester où nous étions, et qu'une heure avant le passage du steamer seulement, nous irions nous placer sur sa route et descendre doucement avec la marée. Ayant pris cette résolution, nous rentrâmes dans la maison et nous nous mîmes au lit. Je me couchai, en conservant la plus grande partie de mes vêtements, et je dormis bien pendant quelques heures. Quand je m'éveillai, le vent s'était levé, et l'enseigne de la maison, le vaisseau, se balançait en grinçant avec un bruit qui m'éveilla en sursaut. Me levant doucement, car l'objet de mes soins dormait profondément, je regardai par la fenêtre. Elle avait vu sur la digue, nous avions mis à sec notre bateau, et quand mes yeux se furent habitués à la lumière de la lune, perçant les nuages, je vis 2 hommes qui le regardaient. Ils passèrent sous la fenêtre sans regarder autre chose, et ne descendirent pas au bord de l'eau, qui, je le voyais, était à sec, mais ils prirent par les marais dans la direction du nord. Mon premier mouvement fut d'appeler Herbert, et de lui montrer les 2 hommes qui s'éloignaient. Mais, réfléchissant, avant d'entrer dans la chambre qui était sur le derrière de la maison et attenant à la mienne, que lui et Startop avaient eu plus de fatigue que moi, je n'en fis rien. Retournant à ma fenêtre, je pus encore voir les 2 hommes se mouvoir dans les marais à la pâle clarté de la lune. Cependant, je les perdis bientôt de vue et, sentant que j'avais très froid, je me couchai pour penser à cet événement et je me rendormis. Nous étions debout de grand matin, et pendant que nous nous promenions çà et là avant le déjeuner, je crus qu'il fallait faire part à mes compagnons de ce que j'avais vu. Ce fut encore Provis qui se montra le moins inquiet.
« Il est très probable que ces hommes appartiennent à la douane, » dit-il tranquillement, « et qu'ils ne songent pas à nous. »
J'essayais de me persuader qu'il en était ainsi, comme en effet cela pouvait se faire. Cependant, je lui proposais de se rendre avec moi à une pointe éloignée que nous voyions de là et où le bateau pourrait nous prendre à bord vers midi. La précaution ayant paru bonne, Provis et moi nous partîmes aussitôt après le déjeuner sans rien dire à l'auberge. Il fumait sa pipe en marchant et il s'arrêtait parfois pour me toucher l'épaule. On aurait supposé que c'était moi qui courais des dangers et non pas lui, et qu'il cherchait à me rassurer. Nous parlions très peu. En approchant de la pointe indiquée, je le priais de rester dans un endroit abrité pendant que je pousserais une reconnaissance plus avant, car c'était de ce côté que les hommes s'étaient dirigés pendant la nuit. Il y consentit, et je continuai seul. Il n'y avait pas de bateau au-delà de la pointe, ni sur la rive. Rien non plus n'indiquait que des hommes se fussent embarqués là. Mais la marée était haute et il pouvait y avoir des empreintes de pas sous l'eau. Quand il regarda hors de son abri et qu'il vit que j'agitais mon chapeau pour lui faire signe de venir, il me rejoignit. Nous attendîmes, tantôt couchés à terre, enveloppés dans nos manteaux, et tantôt marchant pour nous réchauffer, jusqu'au moment où nous vîmes arriver notre bateau. Nous pûmes facilement nous embarquer et nous prîmes le large dans la voie du steamer. À ce moment, il n'y avait plus que 10 minutes pour atteindre 1 heure et nous commencions à chercher si nous pouvions apercevoir la fumée du bateau à vapeur. Mais il était 1 heure et demie avant que nous l'aperçûmes et bientôt après, nous vîmes derrière lui la fumée d'un autre steamer. Comme ils arrivaient à toute vapeur, nous apprêtâmes nos 2 malles et, profitant de l'occasion, nous fîmes nos adieux à Herbert et Startop. Nous avions tous échangé de cordiales poignées de main, et ni les yeux d'Herbert ni les miens n'étaient tout à fait secs, quand je vis une galiote à 4 rames venir tout à coup du bord, un peu en aval de nous, et faire force de rames dans nos eaux. Nous avions été jusque-là séparés de la fumée du bateau à vapeur par une assez grande étendue de rivage, à cause de la courbe et du tournant de la rivière. Mais alors, on le voyait avancer. Je criais à Herbert et à Startop de se maintenir en avant, dans le courant, afin qu'il vît que nous l'attendions. Et je suppliais Provis de continuer à ne pas bouger et de rester enveloppé dans son manteau. Il répondit gaiement, « Fiez-vous à moi, mon cher enfant !» Et il resta immobile comme une statue. Pendant ce temps, la galiote, très habilement conduite, nous avait coupés et se maintenait à côté de nous, laissant dériver quand nous dérivions et donnant 1 ou 2 coups d'aviron quand nous les donnions. Des 2 hommes assis, l'un tenait le gouvernail et nous regardait avec attention, comme le faisaient aussi les rameurs. L'autre était enveloppé aussi bien que Provis. Il semblait trembler et donnait quelques instructions à celui qui gouvernait pendant qu'il nous regardait. Pas un mot n'était prononcé dans l'un ni dans l'autre bateau. Startop put voir, après quelques minutes, quel était le steamer qui venait le premier. Il me passa le mot « Hambourg » à voix basse, car nous étions en face l'un de l'autre. Le bateau à vapeur approchait rapidement, et le bruit de ses roues devenait de plus en plus distinct. Je sentais que son ombre était absolument sur nous. À ce moment, la galiote nous héla. Je répondis.
« Vous avez là un forçat en rupture de banc, » dit celui qui tenait le gouvernail. « C'est l'homme enveloppé dans son manteau. Il s'appelle Abel Magwitch, autrement dit Provis. J'arrête cet homme et je lui enjoins de se rendre, et à vous de nous aider. »
À ce moment, sans donner d'ordre à son équipage, il dirigea la galiote sur nous. Les rameurs avaient donné un coup vigoureux en avant, rentré leurs avirons et arrivaient sur nous en travers. Ils tenaient notre plat-bord avant que nous eussions pu nous rendre compte de ce qu'ils voulaient faire. Cet incident produisit une grande confusion à bord du steamer et j'entendis l'équipage nous appeler et le capitaine donner l'ordre d'arrêter les roues. Je les entendis s'arrêter, mais la galiote était lancée irrésistiblement sur nous. Au même instant, je vis l'homme qui était au gouvernail de la galiote mettre la main sur l'épaule de son prisonnier.
Je vis les deux bateaux fortement secoués par la force de la marée, et je vis que toutes les mains à bord du steamer se tendaient en avant d'une manière tout à fait frénétique. Puis, au même instant, je vis Provis s'élancer, renverser l'homme qui le tenait et enlever le manteau de l'autre homme, assis et tremblant dans la galiote. Et encore, au même instant, je vis que le visage découvert était le visage de l'autre forçat d'autrefois. Et encore, au même instant, je vis ce visage se reculer avec une expression de terreur que je n'oublierai jamais, et j'entendis un grand cri à bord du steamer et le bruit d'un corps lourd tombant à l'eau, et je sentis le bateau s'enfoncer sous mes pieds. Pendant un instant, il me sembla lutter avec 1000 roues de moulin et 1000 éclats de lumière. L'instant d'après, j'étais pris à bord de la galiote. Herbert y était, Startop y était, mais notre bateau était parti, et les deux forçats étaient partis. Au milieu des cris poussés à bord du steamer, et des furieux sifflements de sa vapeur, et de sa dérive, et de notre dérive, je ne pouvais d'abord distinguer le ciel de l'eau, ni le rivage du rivage. Les hommes de la galiote regardaient en silence, et avec avidité sur l'eau, à l'arrière. Bientôt, un sombre objet parut, entraîné vers nous par le courant. Personne ne parlait. Le timonier tenant sa main en l'air, et tous ramaient doucement en sens contraire et dirigeaient le bateau droit devant l'objet. Quand il se trouva plus près, je vis que c'était Magwitch. Il nageait, mais difficilement. Il fut repris à bord, et aussitôt on lui mit les fers aux mains et aux pieds. La galiote resta en place, et l'on se mit à regarder sur l'eau en silence et avec avidité. Le steamer de Rotterdam approchait, et, ne comprenant pas ce qui s'était passé, arrivait à toute vapeur. Mais lorsque les deux steamers virent que la galiote était décidément arrêtée, ils s'éloignèrent de nous et nous nous balançâmes dans leur sillage agité. On continua à chercher sur l'eau longtemps après que tout fut devenu calme et que les deux steamers eurent disparu. Mais chacun savait que c'était inutile et qu'il n'y avait plus aucun espoir à conserver. À la fin, nous cessâmes nos recherches et nous gagnâmes le rivage à la hauteur de la taverne que nous avions quittée et où l'on nous reçut avec assez de surprise. Là, il me fut possible de procurer quelques soins à Magwitch, ce n'était plus Provis, qui avait reçu de très fortes contusions sur la poitrine et une profonde blessure à la tête. Il me dit qu'il croyait avoir passé sous la quille du steamer et s'être heurté la tête en remontant. Quant au cou à la poitrine, qui rendait sa respiration extrêmement pénible, il croyait les avoir reçus contre le bord de la galiote. Il ajouta qu'il ne prétendait pas dire ce qu'il pouvait avoir fait ou ne pas avoir fait à Compeyson, mais qu'au moment où il avait posé la main sur son manteau pour le reconnaître, ce coquin s'était reculé et qu'ils étaient tombés tous les deux dans l'eau. Quand l'homme qui l'avait arrêté, lui, Magwitch, en le saisissant en dehors du bateau pour l'empêcher de se sauver, l'avait fait chavirer. Il me dit tout bas qu'ils étaient tombés en se serrant furieusement dans les bras l'un de l'autre et qu'il y avait eu lutte sous l'eau et qu'il était parvenu à se dégager, était remonté sur l'eau et avait nagé jusqu'au moment où nous l'avions rattrapé. Je n'eus jamais la moindre raison de douter de l'exacte vérité de ce qu'il me disait. L'officier qui dirigeait la galiote m'ayant fait le même récit de leur chute dans l'eau. Je demandai à l'officier la permission de changer les vêtements mouillés du prisonnier contre d'autres habits que je pourrais acheter dans l'auberge. Il me l'accorda aussitôt, observant seulement qu'il devait saisir tout ce que le prisonnier avait sur lui. Ainsi, le portefeuille que j'avais eu quelque temps dans les mains passa dans celle de l'officier. Celui-ci me donna plus tard la permission d'accompagner le prisonnier à Londres, mais il refusa cette même grâce à mes deux amis. On désigna aux gardes de l'auberge du vaisseau l'endroit où l'homme noyé avait disparu, et il entreprit de rechercher le corps aux places où il avait le plus de chances de venir au bord. Son intérêt dans cette recherche me parut s'accroître considérablement quand il apprit que le noyé avait des bas aux pieds. Il aurait probablement fallu une douzaine de noyés pour le vêtir complètement, et ce devait être la raison pour laquelle
les différents objets qui composaient son costume étaient à divers degrés de délabrement. Nous demeurâmes à la taverne jusqu'à la marée montante, et alors on porta Magwitch dans la galiote. Herbert et Startop devaient regagner Londres par terre le plus tôt qu'ils pourraient. Notre séparation fut on ne peut plus triste, et quand je pris place à côté de Magwitch, je sentis que c'était là ma place pendant tout le temps qui lui restait à vivre. La répugnance que j'avais éprouvée pour lui avait tout à fait disparu, et dans l'être poursuivi, blessé et enchaîné qui tenait ma main dans la sienne, je ne voyais plus qu'un homme qui avait voulu être mon bienfaiteur et qui avait été affectueux, reconnaissant et généreux envers moi avec une grande constance pendant une longue suite d'années. Je ne voyais plus en lui qu'un homme meilleur pour moi que je ne l'avais été pour Joe. Sa respiration devenait plus difficile et plus pénible à mesure que la nuit avançait, et souvent il ne pouvait réprimer un gémissement. J'essayais de le soutenir sur le bras dont je pouvais me servir dans une position facile, mais il était horrible de penser que je ne pouvais être fâché au fond du cœur de ce qu'il fût grièvement blessé, puisqu'il était incontestable qu'il eût mieux valu qu'il mourût. Qu'il y eût encore des gens capables et désireux de prouver son identité, je ne pouvais en douter. Qu'il fût traité avec douceur, je ne pouvais l'espérer. Il avait en effet été présenté sous le plus mauvais jour à son premier jugement. Depuis, il avait rompu son ban et il avait été jugé de nouveau. Il était revenu de la déportation sous le coup d'une sentence de mort et enfin, il avait occasionné la mort de l'homme qui était la cause de son arrestation. En revenant vers le soleil couchant que la veille nous avions laissé derrière nous, et à mesure que le flot de nos espérances semblait s'enfuir, je lui dis combien j'étais désolé de penser qu'il était revenu pour moi. « Mon cher enfant, répondit-il, je suis très content et j'accepte mon sort. J'ai vu mon cher enfant. Et je sais qu'il peut être gentleman sans moi. Non, c'est ce qui n'était plus possible. J'avais songé à cela pendant que j'étais assis côte à côte avec lui. Non, en dehors de mes inclinations personnelles, je comprenais alors l'idée de Wemmick. Je prévoyais que, condamné, ses biens seraient confisqués par la couronne. Voyez-vous, mon cher enfant, dit-il. Il vaut mieux qu'on ne sache pas maintenant qu'un gentleman dépend de moi et m'appartient. Seulement, venez me voir, comme si vous accompagniez par hasard Wemmick. Je ne vous quitterai pas, dis-je, si l'on me permet de rester près de vous, et s'il plaît à Dieu, je vous serai aussi fidèle que vous l'avez été pour moi. Je sentis sa main trembler pendant qu'il tenait la mienne, et il détourna son visage, en s'étendant au fond du bateau, et j'entendis l'ancien bruit dans sa gorge, adouci maintenant comme tout était adouci en lui. Il était heureux qu'il eût touché ce sujet, car cela m'avertit de ce à quoi je n'aurais autrement pensé que trop tard, de faire en sorte qu'il ne sût jamais comment avaient péri ses espérances de m'enrichir.